Les mardis littéraires, aujourd'hui, léger décalage, Antoine Volodine, Éric Chevillard. Ça résonne, mais ça doit être normal. C'est donc la première des 47 prochaines semaines. Bienvenue autour de la table ce matin. Antoine Volodine, son dernier roman qui vient de sortir aux éditions du Seuil s'appelle Songe de Mev Lido. Tiens, ça a changé, c'est bon. Et puis pour parler avec lui, Jean-Baptiste Arand et Xavier Persson, qui sont quelquefois critiques au mardi. Aurélie Jean, qui travaille au Monde des Livres et au Monde 2, avec qui on va évoquer aussi le dernier livre de Éric Chevillard, Sans Laurent Houtan, qui est publié comme tous ceux qu'il a écrit aux éditions de Minuit. Et enfin Estelle Gap, qui est lectrice au mardi, et qui nous dira avec Aurélie Jean ce qu'elle a pensé d'un premier roman, celui de Reda Bekeshi, Les Heures de Braise, qui est sorti aux éditions Liana Lévy. Ce matin, mais je me disais que c'est votre 16e roman, ça commence à faire. Et j'avais l'impression en le lisant que cette fois vous reveniez à des choses proches de vos premiers textes. Je pense à Des Enfers Fabuleux, à Rituel du Mépris, à Un Navire de Nulle Part, c'est-à-dire des romans que vous avez publiés dans les années 80 et dans lesquels vous développiez la description d'un autre monde longuement, la description de paysages, de souffrances, d'êtres mystérieux et mutants. Et il y avait bien sûr des oiseaux qui parlaient dans vos livres les plus récents, mais cette fois on a l'impression que vous revenez très tranquillement à cette esthétique de vos premiers textes qui avaient trouvé leur place dans cette fameuse collection de chez De Noël, comme si maintenant finalement la question du genre ne vous préoccupait plus et que voilà, vous boucliez une sorte de boucle romanesque.
Mais je pense qu'on retrouve tous les thèmes que j'ai développés au cours des 15 livres précédents, et pas seulement au cours des 4 premiers livres, et en particulier un aspect très important qui est celui de la traversée du bardo du monde d'après la mort, puisque dans Songe de Mev Lido, assez rapidement, enfin dans le dernier tiers du livre, Mev Lido est mort et va et traverse le monde des morts. Donc ça, c'était une thématique que j'avais utilisée et développée déjà de nombreuses fois, et en particulier dans le livre Bardo Arnaud Bardo qui développait cette thématique de façon plus ironique et humoristique que dans ce livre Songe de Mev Lido.
Ouais, c'est peut-être le ton aussi qui fait que j'ai pensé au premier, mais je me disais, ce qui fait une des formidables, je sais pas comment il faudrait dire ça, de puissance d'évocation de vos livres, c'est que vous travaillez, et peut-être là plus que dans d'autres livres, sur le double ou le triple fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une version de la réalité, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs versions, personne n'est ce qu'il croit qu'il est, ou n'est ce qu'il est, ou n'est ce qu'il pense qu'il est, etc. Et en particulier, une des versions de la réalité, c'est le rêve. Et donc ça vous permet comme ça d'emboîter, d'enchasser plusieurs versions de la réalité, plusieurs narrations. Et ça fait comme ça la puissance. Il n'y a rien sur quoi s'appuyer quand on est lecteur.
Je pense qu'il y a tout pour s'appuyer quand on est lecteur, en particulier le fait qu'on accompagne d'un bout à l'autre du livre un personnage qui est Maeve Lido, et on l'accompagne depuis l'intérieur. On l'accompagne dans son appréhension de la réalité et du rêve, et cette réalité que j'ai développée plusieurs fois dans d'autres livres, un peu de l'extérieur, en passant d'un univers onirique à un autre univers onirique, au rêve, à un univers parallèle. Cette réalité-là, qui est celle de Maeve Lido, on la suit en entrant dans les songes et les mensonges de Maeve Lido, ces mensonges qu'il fait à lui-même et qu'il fait à son entourage.
Jean-Baptiste Aran.
Vous vous défendez de ce que dit Pascal, mais la posture du lecteur est certainement la plus confortable, puisque le travail a été fait par l'auteur et la souffrance par le personnage. Il n'empêche que ce que vous dites là nous conduirait à penser que c'est un livre écrit à la première personne, puisque c'est de l'intérieur que ça vient. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un narrateur qui est très discret, qui est peut-être changeant et qui jette une partie de son masque vers la fin du livre. Pourquoi avoir choisi ce mode pour dire l'intime et aussi la perte de sa propre conscience pour quelqu'un comme votre personnage qui nage entre plusieurs eaux, entre vie et mort, entre rêve et réalité?
Antoine de Lusine.
Finalement, c'est un truc littéraire que j'utilise depuis toujours, qui est de placer en place de la première personne un narrateur et un personnage qui se dédouble et qui me permettent de m'éloigner de l'égocentrisme de la première personne qui est difficile à assumer, alors que, en fait, et je l'ai dit de nombreuses fois, il n'y a pas une épaisseur de papier cigarette entre mes personnages et moi, entre les narrateurs et leurs personnages, entre Maeve Lido et les fantasmes de personnages qui hantent ses rêves. Donc c'est une proximité qui entre personnages, entre voix, qui efface un peu cette problématique de la première personne qui parle, qui est je, qui est le narrateur.
Il y a un autre jeu, il y a des nous, il y a des tu, donc c'est assez varié.
Oui, comme toujours, mais finalement on peut toujours ramener ça à un jeu intime que le lecteur ou la lectrice ressente profondément et pas comme une sorte d'obstacle à la lecture.
Enfin, qui peut raconter le rêve d'un autre? Par définition, il n'y a pas de témoin des rêves.
Mais dans le post-exotisme, nous faisons ça en permanence.
Très banalement.
Rien que le post-exotisme, j'ai l'impression que vous le revendiquez moins qu'avant, au point de faire quelques blagues à ce sujet dans le livre.
Non, je le revendique de plus en plus. C'est un système qui fonctionne bien et en particulier justement dans ces effets littéraires particuliers qui rompent avec la monotonie du débat entre le jeu, le narrateur, le personnage de fiction, le personnage qui prend sa voix autobiographique. Tout cela est mélangé, j'espère habilement, pour essayer de tisser avec le lecteur ou la lectrice un lien de complicité immédiat qui leur permet d'entrer dans le livre.
Xavier Persson, j'ai oublié votre nom tout à coup, j'ai eu une hésitation.
Précisément, j'ai un sentiment que c'est un roman qui ouvre beaucoup plus peut-être de voies vers le lecteur que vos autres livres. Faut dire que c'est un roman formidable, c'est un roman qui peut se lire même si on n'a pas lu d'autres Volodine. Ça peut être à la fois la fin d'un cycle, comme on disait, mais aussi peut-être le début d'un nouveau cycle, avec ce centrement sur le personnage de Volodine. Et on posait la question de l'intime.
Ou de Maeve Lido.
Voilà. Volodine Maeve Lido, sachant que ça fait un peu anagramme, donc comme dans les rêves où les choses se déplacent ou se condensent, et on est vraiment dans ce régime onirique de déplacement de la condensation. Et effectivement, on vous interroge sur l'intime et on se retrouve dans une scène d'un de vos romans qui est assez récurrente où le personnage se retrouve face au psychiatre qui veut extorquer son secret. Et le personnage va mentir, va raconter des fictions, va inventer des romans pour ne pas dire la vérité, pour ne pas dire le secret. Alors on voit bien effectivement que chez vous il y a cet évitement du sujet égoïste, comme vous dites, et égotiste. En même temps, dans ce livre-là, j'ai le sentiment que vous allez assez loin dans quelque chose de l'ordre d'un affect très, très intime, avec pour la première fois quelque chose qui n'est pas la vie après la mort, mais la vie avant la naissance, avec quelque chose qui a à voir avec la naissance. Alors, on n'est pas dans une perspective oedipienne, pas du tout, encore que, il y a des personnages qui vont accompagner votre figure de personnage dans sa naissance.
Bourdine.
Oui, mais Vlido, là, développe un fantasme que je n'ai jamais développé au niveau littéraire, et qui est d'imaginer, non seulement dans son ensemble fantasmatique, l'après-mort, mais une vie antérieure. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce mécanisme de réincarnation de mes personnages qui vont vers la réincarnation, qui en cours de roman, dans d'autres romans, deviennent d'autres êtres. Mais là, pour la première fois, j'essaie de développer ce fantasme de la vie antérieure, et à l'intérieur de cette vision de l'avant-naissance, on retrouve toutes les obsessions de Mevlido dans le réel ou dans le réel de ses rêves, c'est-à-dire en particulier tout ce qui concerne le deuil, la fidélité politique trahie, le compagnonnage avec des compagnons et des camarades qui meurent, qui se sacrifient pour que Mevlido existe, pour que le personnage principal existe. Et donc ce qui hante Mevlido dans la réalité se retrouve à la fois après sa mort, ce qui est normal, mais également dans cette représentation qu'il a de la vie antérieure où des femmes qu'il aime disparaissent alors que lui survit.
On retrouve votre univers, je ne sais pas comment il faudrait dire, noir, glauque, rouillé. Et puis on retrouve votre bestiaire, et qui est là, qui est particulièrement beau. Parce que vous jouez à la fois, je dirais, sur la beauté animale, hein, c'est-à-dire qu'il y a des corbeaux femelles, il y a des femmes avec des duvets blancs, etc.
Des poules mutantes.
Et puis, c'est ça, il y a des êtres répugnants, des poules mutantes,
des araignées,
des sortes de vautour. Magma. Ah oui, un vautour téléphonique absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le bestiaire devient comme ça. Enfin, vos animaux mutants deviennent des personnages à part entière. Et la puissance de votre narration tient au fait à la puissance quelquefois, pas toujours, à la puissance du dégoût. Que vous provoquez des espèces de c'est très 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 puissant, je trouve, espèce de choses répugnantes que vous faites. Je sais pas, il y a des araignées sur les murs, etc. C'est-à-dire que vous arrivez à évoquer des choses inimaginables et que vous le faites, voilà, de façon, je trouve, très très belle. C'est pas une question, je suis désolée.
Oui, non, la description la présence des araignées, par exemple, sur laquelle on reviendra, puisqu'il s'agit presque d'une vision politique du monde, mais la présence des araignées est très extérieure au personnage, alors que les oiseaux, en particulier, il y a une sorte de fusion permanente entre le fantasme du corps humain et du corps animal. Et je pense que ce glissement très facile de l'humain à l'animal, c'est quelque chose qui hante mes personnages, mais qui est profondément inscrit aussi dans le lecteur et la lectrice, et je pense que ça permet de remettre en cause, de déstabiliser un petit peu au cours de la lecture, et donc d'accrocher le lecteur ou la lectrice en leur faisant apparaître cette animalité sous cette forme-là, qui est celle d'un fantasme d'animal humain avec lequel on a des relations intellectuel ou sexuel ou sentimental, c'est-à-dire que les relations humaines là touchent au plus profond de ce que nous avons en nous, je pense, et d'où certaines relations, on le verra plus tard avec ce que fait Chevillard dans Saint Laurent Houtan, où on a des thématiques qui se croisent très curieusement.
Vos oiseaux me donnent la chair de poule. Et non, moi, ça me fait peur. Moi, j'ai toujours espoir que ça va être un humain dès que revient ce vautour, cette poule, cette. Les araignées, non, effectivement, elles ont un rôle à part, et à la fin du livre, la déclaration.
Je crois qu'on peut faire une stratification, enfin une hiérarchie, finalement, entre ces personnages oiseaux. Les poules mutantes dont on a parlé sont des poules mutantes. C'est des poules. Elles sont sur les trottoirs, on marche dessus.
Elles pincent les mollets.
Elles piquent, elles pincent les mollets quand on se déplace dans la ville. Elles peuvent étouffer par leur nombre, mais ça reste des oiseaux.
Elles étouffent. La scène de foule de poules mutantes où les deux amis.
On peut se noyer dans un flot de poules mutantes. Ça, c'est effrayant.
Et là, vous nous en parlez comme si c'était vrai. Moi, en le lisant, je pensais que c'était un livre et c'était pas grave. Mais en fait, ça arrive.
Et c'est vrai. Oui, bien sûr. Et puis, il y a d'autre part des personnages oiseaux humains, un peu comme ceux que dessine Max Ernst dans la peinture surréaliste, des corps humains mélangés à un corps d'oiseau, qui peuvent avoir des côtés extrêmement tendres et extrêmement attirants. Enfin, c'est le cas de la jeune terroriste Sonia Volgelan qui a un côté oiseau, mais comme dans certains personnages oiseaux que j'ai mis en scène dans d'autres livres, extrêmement attirant. Mais en même temps, il y a des personnages oiseaux qui sont répugnants. C'est le cas du vautour téléphonique, comme dirait Pascal. Oui, Alban Gluck.
Et Sonia, effectivement très bandante, pour reprendre le mot que vous utilisez à plusieurs reprises à son endroit. Mais quand on avance dans la description et qu'on s'incarne dans l'œil voyeur de l'écriture et que soudain, ça y est, les plumes arrivent, je trouve ça beaucoup moins bandant, quoi, une femme à plumes.
Chacun son truc.
Ouais, son truc en plumes.
Vous vouliez dire un mot, Aurélie?
C'était à propos des passerelles qu'il y avait avec Chevillard, en fait. C'est assez troublant, oui, je trouve.
On reviendra à ça, alors, un peu après. Hein, personne.
Ouais, en tout cas, moi, je voulais dire aussi que c'est pas que sombre et noir, quoi. C'est aussi très drôle, parfois. Enfin, je trouve de l'humour. Je trouve qu'il y a presque de l'auto-ironie de Vlodine qui s'amuserait lui-même de son univers et qui viendrait un peu saluer ses figures et leur dire un peu adieu sur cette scène, comme ça, où on voit les vieilles bolcheviques radoteuses.
Moi j'adore, parce que les vieilles bolcheviques, elles sont retournées à l'état sauvage.
Donc, il y a tout cet univers qui est convoqué comme ça sur une scène un tout petit peu, peut-être pas parodique, mais en tout cas une légère ironie, une tendresse en tout cas vis-à-vis de vos personnages. Et ce qui m'a aussi frappé beaucoup dans ce roman, c'est que ça parle étonnamment du monde présent. Enfin, on n'est pas du tout dans un autre univers, on est là aujourd'hui, et vous dites que les hommes sont descendus à un niveau de barbarie, d'idiotie, je vous cite, qui étonne même les spécialistes. Et vous parlez des classes dirigeantes qui sont gangstérisées, des pauvres qui obéissent. Vous écrivez cette ville avec Mémorial Avenue, donc où il faudrait se souvenir de quelque chose, mais en fait, on s'aperçoit qu'à la fois, il y a une fiction d'une réalité qui serait enjolivée, et à côté de ça, il y a le ghetto. Et donc, on se situe dans un monde qui est complètement fabriqué. On oublie finalement ce que vous dites, l'état impardonnable du monde. Et c'est pas juste le passé, les camps, la guerre, les traumatismes qu'on a oubliés, c'est aussi le présent qu'on a oublié chez vous.
Oui, comme toujours, la matière historique sur laquelle est construite est construit le roman et puise dans le passé du XXe siècle, mais également dans le présent. C'est actualisé. Une des dimensions qui revient fréquemment, qui est nommée, c'est celle des enfants soldats, qui est un phénomène contemporain, enfin du dernier quart de siècle, très 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 abominable, et qui parle du présent. Je pense que systématiquement le système de narration que je choisis fait appel à tout ce que connaît déjà le lecteur ou la lectrice pour reconstituer les images qui sont des images fantasmatiques, des images oniriques, des images d'univers parallèles, mais qui ne peuvent se construire, se charpenter que sur des éléments connus et qui évidemment sont vus sous l'œil affolé, répugné du personnage, du narrateur. Le monde est terrible, le monde est répugnant, mais c'est le présent, et ce présent-là, c'est aussi celui des lecteurs. Et effectivement, il y a, d'une part, pour reprendre ce que vous disiez, il y a un regard ironique, amusé, distancié, porté sur l'ensemble de la parole narrative, de l'œuvre littéraire en cours. Et puis d'autre part, il y a une critique sociale et politique très forte qui est pas une dimension nouvelle dans mes livres, et qui est portée ici sur le monde tel qu'il évolue en ce moment.
Mais en même temps, c'est vrai que vos livres ont toujours été bâtis aussi sur le je sais pas comment on pourrait dire ça, une vision très très distante du rituel communiste, du formalisme bolchevique, une espèce de souvenir devenu très très ancien de toutes ces choses. Mais on a l'impression, il me semble qu'un navire de nulle part, il commençait aussi par une scène d'aveu comme ça, sous la torture, plus ou moins. Mais là, par exemple, dans Mevlido, c'est une scène d'aveu ou de torture ou disons d'autocritique, avec tous les guillemets, qui est elle-même parodiée, qui était une sorte de comédie sur un théâtre, et les masses supposées assister à cette autocritique sont quatre, etc. Et donc, on a l'impression qu'au fond, vos livres s'écrivent dans une sorte de à la fois de distance de plus en plus grande à l'égard, évidemment, de ces signes révolutionnaires, entre guillemets, mais aussi se construisent dans une sorte de désespoir politique de plus en plus grand. C'est-à-dire que, il y avait, au fond, jusque-là, des terroristes qui avaient encore l'espoir qu'un assassinat ou un attentat pourrait changer quelque chose. Là, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de...
Oui, ce qui est mise en scène beaucoup dans ce livre, c'est vous parliez de théâtre, c'est le théâtre que je trouve magnifique de la geste politique du XXe siècle, avec ses rituels, les relations avec le parti, les slogans, la fidélité au parti, l'appel systématique à de Mevlido, s'est inscrit en lui à la morale prolétarienne, au respect de la morale prolétarienne, l'autocritique, tout cela ne fonctionnant absolument plus dans l'univers qui est un univers déliquescent et en ruine, ne fonctionnant plus, restant une sorte de théâtre qui a sa beauté propre. Et d'ailleurs, dans les slogans, par exemple, qui sont donnés au fil du livre, les choix, c'est des choix de slogans totalement déconnectés de la réalité. Mais ces personnages s'accrochent à ce théâtre, s'accrochent à ce lambeau d'activité politique, de souvenirs politiques, pour continuer à exister dans un monde qui leur est hostile. Et le théâtre lui-même n'est pas porteur d'espoir, il est porteur d'une sorte d'éclairage de beauté intime qui habite les personnages et qui leur donne le goût de survivre.
Qu'est-ce qu'un pull vert de laine brune avec des losanges mineurs?
C'est une astuce.
Non, mais parce qu'il faut dire que c'est marrant quand même. Tout ce qu'on vient de décrire n'est supportable que parce que c'est drôle. Il y a des vraies blagues, Il y a des blagues à la Boris Vian, les ascenseurs qu'oublient qu'il n'y a pas de sous-sol, enfin des trucs comme ça. Et les slogans, ils sont tous de vous ou certains ont été empruntés à Maria Soudaïeva?
Certains ont été empruntés à Maria Soudaïeva, mais la plupart ont été pris dans vociférations.
Petite sœur, oui. Ceux qui commencent par petite sœur, c'est en sandelle.
Il faudrait regarder de près. Hein.
J'ai essayé de les retrouver, je ne les ai pas retrouvés. Et une autre question que je vous pose à chaque fois, mais parce que c'est mon truc, une fois de plus, 7 fois 7, 49 chapitres, 7 parties, comme les 49 narrats des anges mineurs, des losanges oui. mineurs, ça vous aide? Ça a un sens?
C'est un bel édifice. Je pense que c'est pas systématiquement dans tous mes livres, mais cette structure en 7 est une structure qui, sur laquelle j'ai trouvé un équilibre pour construire mes livres. Et là, c'est également une structure en pyramide, c'est-à-dire il y a 7 parties, mais la partie centrale, comme dans des anges mineurs, la partie centrale, le 25e nara. Décrivait la naissance du narrateur, la naissance, la création du narrateur par les vieilles. Ici, la partie centrale décrit le avant la naissance de Mévido, la vie antérieure. Donc, on est dans une structure qui fait des clins d'œil à ce qui a déjà été fait, à ce qui a déjà été narré dans d'autres livres. De façon assez paisible, disons. Mais cette structure de 7 ou de 7 fois 7 me semble parfaitement en accord avec ce que la littérature post-exotique peut produire. Voilà.
Et donc, dans le cadre de la littérature post-exotique, d'ailleurs, vous proposez 3 fins. C'est ça, parce que ça oui. correspond à un genre défini par de la littérature post-exotique.
Le faceillage narratif.
C'est ça.
Oui. Oui, parce que voilà, on est dans un univers narratif qui fait intervenir toujours des narrateurs extérieurs, des surnarrateurs, des gens qui prennent en main le livre, qui prennent en main la narration, le destin des personnages depuis un extérieur du livre et puis qu'on retrouve à l'intérieur du livre et qui choisissent à la fin de présenter 3 fins possibles.
Certaines moins sinistres que d'autres. Non, mais les araignées, par exemple, l'invasion des araignées n'est pas la plus joyeuse, mais voilà. Xavier.
Oui, Jean-Baptiste parlait des slogans. C'est vrai que le livre se termine sur un slogan, et on entend dans ce livre où il est question de désespoir politique, d'après la révolution, de l'apocalypse, on entend en permanence en arrière-fond des slogans comme ça qui sont scandés dans les rues. Et ces slogans ont une forte charge politique. D'ailleurs, il est question de faire des attentats contre la Lune. Il y a tout cet univers onirique et surréaliste. Et donc, c'est vrai qu'un roman qui aboutit sur un slogan, donc sur une formulation politique, par rapport à la question de l'espoir ou du désespoir, on se demande finalement si, pour vous, la littérature, en tant que cette résistance poétique, a encore une action politique possible. Est-ce que, pour vous, même la littérature est désespérée?
Absolument désespérée, oui. Mais on peut se permettre de terminer le livre par frapper un appel à continuer le combat, mais en sachant que la parole littéraire n'ouvre aucune porte et n'ouvre plus aucune porte, et que la voix VOIX poétique sonne dans le vide.
Oui, pardon.
Juste un mot, vous faites dire un personnage, l'idéologie n'est qu'une prière vide de sens, je crois. Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez reprendre à votre compte, et est-ce que vous diriez la même chose de la littérature? Une prière vide de sens.
Ah oui, c'est pas mal ça, oui.
C'est dans le livre.
Oui.
Voilà, Antoine Volodine, Songe de Mévlido, qui est publié aux éditions du Seuil. c'est un roman, il me semble, très, très proche de celui qu'il avait publié l'année dernière et qui s'appelait Démolir Nizar. C'est une sorte, je dirais, d'exercice de style à partir d'une contrainte dont on ne connaît pas le... ou dont il est difficile, disons, d'évaluer le degré de, d'arbitraire. Peut-être sur le lien étrange, en effet, entre Volodine et Chevillard, Aurélie Dian, pour commencer.
Déjà par rapport au, il y a le pays maudit chez Chevillard qui est un monde imaginaire qui est recouvert de sable et qui peut faire penser à Poulailler 4, sauf que dans Poulailler 4 finalement on pourrait y vivre, alors que dans le pays maudit c'est plus de l'ordre de la vision. Il y a aussi des bestioles dans les deux livres, mais de la même façon on n'arrive pas trop à bien voir les bestioles de Chevillard alors qu'on voit bien celle de Volodine. Il y a aussi, je pense, par rapport au cri, j'avais lu dans des entretiens avec Antoine Volodine qui parlait d'une littérature du cri, et justement à la fin de Chevillard il parle de Laurent Houtan qui ne profère aucune parole inutile et qui préfère un cri bien modulé. Et on peut aussi, comme il y a toujours plusieurs niveaux chez Chevillard, on peut penser que lui aussi parle d'une littérature du cri. Je pense que dans les deux cas, c'est des fictions spéculatives qui donnent un grand rôle à l'imaginaire et qui est aussi avec une fécondité de l'hypothèse qui permet d'élargir les perspectives. Et avec également un motif de l'exil post-expérience révolutionnaire ratée chez Volodine et une solitude irrémédiable après la fin des orang-outans chez Chevillard. Et où il y a notamment la notion de fin des idéologies avec la partie qui concerne la rééducation et le devenir orang-outan, enfin on verra plus tard. Et enfin, c'est aussi dans les deux cas une écriture à plusieurs voix avec plusieurs narrateurs. Et peut-être je ferai une distinction, c'est que de la même manière ce que j'ai dit sur le paysage, chez Volodine, les narrateurs ont vraiment... sont palpables quasiment, alors que chez Chevillard, il le dit lui-même dans les entretiens, c'est plutôt des figures de rhétorique et des pronoms personnels qui sont pas nos voisins de palier. Et dans les deux cas, c'est aussi l'exploration de positions intranquilles et d'un monde chaotique et très mouvant. Moi je trouve qu'il y avait des atmosphères assez proches.
Oui. Ah oui. En particulier dans la partie centrale, l'atmosphère.
Et l'animalité.
Oui, et l'animalité.
Oui. Alors, pour le dire donc très vite, le point de départ du Chevillard, c'est comme Démolir Nizar était un critique littéraire haïssable, tel qu'à partir de la haine de Nizar ou de Nizar, Chevillard développait une espèce de processus d'énamoration, comme dit Lacan. Là, c'est la disparition de deux orang-outans qui signent sans doute la disparition définitive de l'espèce des orang-outans et qui provoque une sorte de délire, de je sais pas comment il faut appeler ça, de discours, de haine universelle, de détestation à l'égard du monde. Moi j'ai eu quand même beaucoup de mal à accrocher à cet exercice du vide à partir d'une contrainte, comme je disais, dont on ne sait pas l'arbitraire, c'est-à-dire que je ne comprends pas l'objet. Pour moi il n'y a pas d'objet, au fond sans objet j'ai beaucoup de mal à adhérer, même à une très belle machine comme la très belle machine de Chevillard. Jean-Baptiste Aran.
Non, mais le projet du livre est clair. Il reste deux orang-outans et le narrateur, le personnage principal et le gardien, on imagine qu'ils sont dans un zoo
oui.
Bagus et Mina, un couple d'orang-outans qui meurt sans descendance et il va falloir que cette planète survive sans l'orang-outan, comme dit le titre. Donc c'est un challenge assez compliqué et on se demande si Chevillard va tenir 200 pages avec ça, et il tient 200 pages avec ça. Les livres de Volodine sont des livres lourds, pesants, qui font semblant de nous traîner dans la boue, dans l'enfer, et qui en fait sont des livres très drôles. Chevillard, c'est le contraire. Il fait semblant d'écrire que des livres drôles, et de temps en temps appaire le drame de la nature humaine, enfin du destin humain. Et je crois que ce livre-là était peut-être un peu plus ambitieux que les autres, parce que parce qu'on peut y voir une fable philosophique, écologique, on peut y voir ce qu'on veut, mais malgré tout, c'est tricoté avec les mots d'auteur de Chevillard, qui ne sont pas que des mots d'auteur, qui pour moi fonctionnent et font un livre, alors que, qu'on lit peut-être avec moins de distraction que les livres précédents, parce que il n'y a pas que de la blague, c'est construit, il y a cinq parties, enfin, il y a quatre parties, mais la quatrième fait une demi-page, donc on la compte pas. Et effectivement, la deuxième et la troisième, la première racontant l'absence de Londres, je trouve que c'est une très belle idée de dire Laurent Houtan, quand il était là, il n'était pas présent partout, il faisait son rôle d'Laurent Houtan, mais maintenant qu'il a disparu, il est absent partout.
Mais ce qui marche pas, moi je trouve l'intérêt du livre, c'est que vous êtes toujours, le lecteur est dans le trouble, un peu comme chez Marine Dia, c'est-à-dire que tout à coup, comme le discours est hyperbolique, comme on ne peut pas croire une minute que la disparition de deux Laurent Houtan provoque la fin du monde, alors on est dans un délire d'auteur tel que on ne sait pas qui parle, où est l'auteur, quel est le point de vue, ce qu'il veut dire. Et ça, c'est un trouble intéressant, mais sans objet, encore une fois, sans contenu.
Je marche du délire
paranoïaque, etc. Mais un peu comme dans certains textes de Kafka, quand on ne sait pas qui parle. Voilà.
La deuxième partie, c'est sans l'orang-outan. Il n'y a pas une seule fois le mot orang-outan dans la deuxième partie, qui est très proche de ce que Volodine fait. C'est l'absence, la dilution de la perception de la réalité. Tout ça, c'est, on n'est plus dans du Chevillard d'Almanach Vermont, là. On est vraiment dans une destinée qui échappe. Et puis la troisième partie, l'apprentissage. Alors évidemment, ça va pas se faire, je pense, à ce qu'on puisse sélectionner une partie de l'humanité pour enfin en faire des orang-outans et qu'on reparte sur une bonne base, ça va pas se faire. Mais on est proche de Antoine, dites-nous.
Le seul modèle pour moi, c'est Thomas Bernhardt, disons. Le seul modèle recevable, il y a quelques clins d'œil, il y a les dits Intel, dits Pelleport, etc. C'est la seule, voilà, pour moi, la seule ouverture possible de ce type de texte, mais.
Bernhardt s'est traduit, tandis que Chevillard, ça fonctionne, il y a une musique, et ça marche syllabe après syllabe, et ça, moi je marche là-dedans, quoi. Je sens pas dedans ce me convient, et il peut m'emmener valser partout.
Xavier, personne.
Oui, il y a un excès chez Chevillard, un excès complètement rhétorique et parodique, ce qui fait que sur un versant de cet excès, on peut être dans quelque chose qui peut paraître un peu scolaire, du bon élève avec ses exercices de style et ses pirouettes, mais de l'autre versant de l'excès, il y a quelque chose de l'ordre d'une folie propre à Chevillard dans cette espèce de d'épuisement de la parodie, de la rhétorique, qui fait que ça devient possible de le lire comme quelque chose de, où on va toucher sa folie de langage. C'est vrai que moi je l'ai lu dans cette ambivalence-là, hein, donc c'est le livre est quand même un peu long, et donc c'est vrai que des fois ça, mais en même temps si on veut être exténué il faut la longueur, donc on peut pas lui reprocher son
projet. Pourquoi vous pensez qu'il travaille sur l'exténuation?
Oui, je crois qu'il y a, c'est vraiment la répétition du même, c'est vraiment c'est un livre qui n'avance pas entre la première et la dernière page.
Enfin, oui, mais il y a par exemple, la partie centrale marche trop.
Énormément.
Il y a un effet de boucle.
En même temps, il n'y a pas de fiction qui raconte quelque chose de nouveau.
Il n'y a pas de personnage.
On est un peu dans.
Moi, je trouve qu'il y a un scénario, il y a un vrai scénario.
Il y a la même que l'idée d'arrivée. Il n'y a pas d'idée nouvelle. On pourrait prendre la fin.
Bien sûr, il y a même, on pourrait appeler le happy end à la fin. Enfin, oui.
La littérature de l'étreinte, c'est quand même intéressant comme idée.
Oui, non, mais bien sûr.
Non, ça lui déplaît pas d'agacer. Ça, c'est visible. Mais cet agacement est un châtiment agréable.
La fascination chez Chevillard qui est revendiquée, enfin, qui malmène son lecteur sur ce côté-là.
Oui, mais enfin, si on va à Chevillard, c'est aussi son 16e roman, curieusement, et il fallait arrêter plutôt de les lire. Mais je pense qu'on peut sauter même dans celui-ci, en n'ayant pas lu d'autres. Je pense que c'est un des plus faciles, c'est un des plus scénarisés, oui. Il y a une donnée, il se passe un truc, on essaie au cinéma, je pense que c'est possible. Hein.
Non, et puis il y a des moments très, très développés, par exemple sur la famille, sur le nom, sur les relations à l'intérieur entre parents, enfants, qui sont très forts, et qui sont des moments qui construisent justement une progression.
Mais je vous ai dit que j'étais ambivalent, donc effectivement, il y a aussi d'autres éléments. Il y a le fait que le personnage, finalement, qui s'appelle Albert Moindre, ce qui n'est pas rien de s'appeler Albert Moindre.
C'est pas la première fois qu'il apparaît dans son œuvre.
Et qui effectivement, enfin, il va se retrouver face à quelque chose comme une figure un peu de la castration. Qu'est-ce qu'on fait amputé de quelque chose? Il manque quelque chose, il y a une perte, il dit il y a un trou béant, donc c'est l'absence de Laurent Goutin. Et qu'est-ce qu'on fait de cette absence? Et qu'est-ce qu'on fait finalement au fait de l'absence de l'autre, c'est-à-dire de l'animal, qui fait qu'on va être condamné, comme vous le dites, à ressembler à nos parents? Ce qui est la pire des choses, donc à ressembler à soi-même, donc condamné au même. Et finalement, donc il y a en filigrane, il y a quelque chose qui vient toucher une espèce d'obsession de ces thématiques chez Chevillard qui finit par dire quelque chose. Là, on pensait que rien ne se disait. Donc, au bout du compte, même si moi je suis ambivalent et c'est vrai que je m'ennuie parfois, et pourquoi pas, c'est en même temps je préfère m'ennuyer chez Chevillard que m'amuser ailleurs parfois, c'est un ennui qui a sa valeur.
Mais,
Non.
Non, je trouve pas ça du tout ennuyeux. Je pense que n'importe quelle phrase de Chevillard me régale. Il a commencé comme ça, d'ailleurs, que la première fois qu'il a amené un manuscrit, il y a 20 ans, à Jérôme Lindon, c'était que des phrases. Et Lindon lui a dit, oui, mais c'est formidable, mais il vaut mieux écrire un roman pour commencer dans le métier. Il est reparti chez lui avec ses phrases, et il a mis une sauce autour, il est revenu, et c'était un roman. Depuis, il va vers le roman, et je pense que c'est le plus romanesque de...
Non. On n'est pas dans le roman, dans le discours, on est sur le ton de la très très oratoire, enfin, dans les figures de rhétorique très lyrique, avec un lyrisme parodique, mais ça parle beaucoup, et ça peut être bavard, mais en même temps ça peut être aussi dans ce goût de la rhétorique, et cette espèce de quelque part entre Bossuet, Beckett et Michaud.
Oui, parce que c'est un bavardage où tout mot compte,
ouais.
C'est pour ça aussi que c'est injuste de parler de bavardage.
Oui, c'est vrai, c'est très très sophistiqué. Oui, chaque mot est pesé, chaque expression figée est légèrement détournée, etc.
Il n'y a rien d'attendu dans les adjectifs.
Oui,
exemple.
C'est vrai.
Et si on change quelque chose, ça ne fonctionne plus. Donc c'est quand même une horlogerie admirable. Moi, je suis client de ça.
À propos de l'hérédité, je me disais, parce que vous parliez de Michaud, c'est vrai que Michaud est un écrivain important, je pense, pour Chevillard. Et il y a un texte de jeunesse comme ça, enfin, il y en a plusieurs, mais un en particulier auquel je pense de Michaud, dans lequel il se lamente de son hérédité, c'est-à-dire d'être obligé de dépendre de gens qu'il méprise et qu'il déteste pour devenir ce qu'il est et pour être ce qu'il est. Je voulais lire un petit passage de l'hérédité dans son Laurent Houtan. J'ai regagné ma place à la table du restaurant, mais cette place est aussi la leur. Je le vérifie malgré moi dans la lame de mon couteau. Ses lèvres luisantes et molles sont celles de mon père. Je ne lèche pas sans dégoût leur moustache de sauce. La langue de ma mère passe sur mon visage. Si ce n'est une ours qui lape un bonbon, mes parents ont repris leur croissance dans les espaces abandonnés par Laurent Houtan. Ils s'épanouissent en moi. Leurs ongles vont me crever la peau. Ils me défigurent. Je ne me reconnais plus. Je vieillis selon leur pente. Je me précipite dans leurs bras. Et pourtant, j'avais bien cru m'en arracher définitivement et que chaque seconde augmenterait la saine distance. Entre nous s'étendait le territoire de Laurent Houtan et ses perspectives fumantes. N'en finirait-il jamais de m'engendrer? Ils retravaillent leur créature de l'intérieur, dotés cette fois d'outils plus performants, plus perforants, plus tranchants que l'organe premier, qui ne fut pas assez dur pour moi, dirait-on, des lames donc, des ciseaux, des scalpels, etc. C'est vrai que c'est un des passages les plus impressionnants, comme si... c'est vrai, ce passage sur l'hérédité est très très beau, mais comme si... Chevillard acceptait la violence de son propre texte, c'est-à-dire comme si pour une fois il se laissait aller à sa violence, parce qu'on a toujours l'impression en lisant Chevillard qu'il y a une espèce de réflexivité très très puissante qui l'empêche de regard sur lui-même auto-ironique, qui l'empêche de développer des choses.
Des fois il va toucher la colère, et quand il touche la colère il y a quelque chose dans cette hargne qui devient très bon.
Voilà. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais.
Nous, on y vient, quoi. C'est formidable. Il suffit d'en lire une page pour que.
Non, cette page est très belle, simplement.
Mais toutes les pages sont belles.
Il y a des systèmes de fuite, d'évitement, donc on y va pas, on avance, on recule. Et alors, effectivement, des fois qu'on recule, c'est un point de vue, puis qu'on avance, c'est bien.
L'étanchéité de la loutre laisse à désirer. C'est formidable.
Ah non,
je suis prêt à lire tout un livre.
Toute la question, par exemple, et lui-même pose la question dans son propre texte. Quand il décrit, il y a une très très belle description qui fait penser à Volodine d'un animal qu'il appelle le hurlant dans la seconde partie. Et il dit, c'est une métaphore. Et toute la question est de savoir si son texte est ou non une métaphore au fond. Est-ce qu'il dit quelque chose ou est-ce qu'il ne dit rien? Est-ce qu'il a quelque chose à dire ou est-ce qu'il n'a rien à dire? Et s'il n'a rien à dire, est-ce que c'est embêtant ou pas? Voilà. Mais c'est une question. Moi, ça m'embête. Mais peut-être qu'il...
Mais en même temps, quand il parle du hurlant, là j'avais une phrase sous les yeux, il jappe en effet mieux que nos malheureux chiens aussi aphones et efflanqués que notre littérature. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces images sont prétextes à donner des coups dans le réel, dans le à faire une critique sociale, littéraire et
c'est très actuel quand on voit qu'il y a certaines personnes qui accusent d'autres de plagiat psychique. On voit que quand il parle de l'autofiction, quoi. Pour moi, c'est assez clair.
Qui est une de ses cibles depuis longtemps, hein, l'autofiction, effectivement. À propos de la littérature, il dit aussi, sur cette planète étrange, il dit, dans le blizzard sifflant, notre littérature peine à faire entendre sa petite voix de malade. Que dit-elle? Pas l'énigme. Elle réclame sa potion comme toujours. Oui. Simplement, ça passe comme ça dans un livre qui va peut-être ça pour objet, mais qui ne le dit pas assez, sans doute, pour
c'est
que ce soit.
Le problème de l'absence. Il avait fait un livre qui s'appelait Les absences du capitaine Cook, qui avait la particularité que le capitaine Cook n'y apparaissait jamais.
Oui, il travaille sur l'absence.
Et Nizar, c'est pareil, alors que Nizar apparaît sous un autre orthographe. Et à force de vider la littérature du subalterne, il essaie les mots et le sens qui disparaît reste au fond toujours, et toujours il reste au fond du verre le sens. Moi je trouve que c'est une démonstration formidable.
Il reste du sens.
Du sens, oui, il reste du sens. Et ce qu'il présente comme une tautologie, en vérité, a toujours un sédiment dont je fais mon miel.
Vous voulez ajouter quelque chose, Aurélie Dion?
Oui, moi je pensais que ce qui était intéressant, et ce que vous le disiez par rapport à la passerelle avec Nizar l'année dernière, finalement Laurent Houtan c'est l'anti-Nizar. C'est vraiment ça. C'est il y a une espèce de retournement, comme s'il partait vraiment sur des nouvelles pistes. Et Xavier Person a parlé de qu'il y avait une certaine immobilité. Moi je trouve pas du tout, parce que Laurent Houtan justement c'est le mouvement. C'est par la négative, mais il y a quand même et je trouve que ce qu'il y a de plus fort dans le livre, finalement, c'est le point de vue. Il en parle à un moment. C'est le point de vue manquant, qui est le point de vue de Laurent Houtan. Et la première phrase, elle est magnifique, où il y a une espèce de souplesse dans la phrase avec plein de virgules, et où on a l'impression que c'est écrit du point de vue de Laurent Houtan. Il y a un doute sur l'origine de la parole dans la première phrase, et ça me fait penser à un texte d'Antoine Volodine qui s'appelait « Brève rencontre », où on voit un éléphant qui se balade dans la forêt, et on ne sait pas tout de suite que c'est un éléphant, en fait. D'abord, on voit il s'appelle Vong, et on voit juste... il agite ses oreilles, et après, on voit que c'est un orang-outan. Que c'est un éléphant, pardon. Et donc là, moi, je trouve que, justement, le trouble narratif, c'est tout ce qui fait la force du livre. C'est ce qui fait qu'on est peut-être dans une espèce d'attention, et qui permet qu'on ait tous les niveaux de conscience, quoi, qui a disséminé dans le livre. Et c'est pas une contrainte littéraire arbitraire, parce que quand bien même Chevrière se serait dit tiens, si j'écrivais un livre sur Laurent Houtan, chiche, et ben ça marche.
Comme il le lit sur le hérisson, et ben ça marche.
Ça marche, ouais. parce que tout d'un coup on voit la physiologie de Laurent Houtan, ça fonctionne comme une fable philosophique, comme une espèce de fiction anhistorique de Rousseau, où il y a un espèce d'état de nature bizarre, où les orang-outans seraient l'horizon moral, parce qu'à un moment c'est ça, c'est ils regrettent.
La troisième partie, oui, on procède à l'empaillage des deux orang-outans.
Qui deviennent des idoles, voilà. Avec un culte, un rituel.
J'ai eu un peu de mal aussi, mais...
Quel film.
Et ça permet d'avoir des nouveaux gestes, et puis de parler aussi de... Moi, ce qui m'a énormément intéressé aussi, c'est qu'il parle d'un décentrement. Il dit que finalement, nous, on se déplace horizontalement, alors que Laurent Houtan se déplace verticalement, et que nos jambes sont bien faibles par rapport aux bras de Laurent Houtan, et que, voilà, Laurent Houtan a un mode de rapport au monde qui est sur le mode de l'étreinte. Et moi, ça me fait penser à Diderot, quand il dit qu'écrire, c'est l'art d'allonger les bras. C'est vraiment un décentrement, aussi une manière d'appréhender le monde qui serait différente, quoi, qui serait... Et d'où une autre manière de lire aussi, et puis une autre manière d'écrire. Et je trouve que c'est très cinglant ce qu'il dit sur l'autofiction. On a une littérature pleurnicharde qui se regarde le nombril. Enfin bon, c'est pas nouveau de dire ça, mais il le dit en construisant des visions et des personnages, et c'est d'autant plus fort que de le dire directement.
Merci. Vous voulez ajouter quelque chose à ça? Ok. Donc voilà, le livre de Éric Chevillard, au cas où on l'aurait oublié, s'appelle Sans Laurent Houtan et il est publié aux éditions de Minuit. Reda Bekeshi, qui est publié aux éditions Liana Levy. Puisqu'on évoquait aujourd'hui des romans, je disais, construits sur un léger décalage avec le réel, je m'étais dit que celui-là pouvait correspondre à ça, c'est-à-dire décrire une réalité légèrement décalée, celle de l'Algérie d'aujourd'hui, Aurélie Dian. Je pense que voilà, vous n'allez pas être toutes les deux d'accord sur ce livre-là, donc... Allez-y.
Oui, bah alors moi je trouve que ça fonctionne pas du tout en fait. Donc,
pour le dire d'emblée,
voilà,
vous voulez dire.
Pour le dire d'emblée, je pense que. Enfin, moi je suis absolument pas rentrée dans le livre. Donc c'est une ville imaginaire et ses forces vives. Et il y a un espèce d'esprit de résistance qui traverse le livre avec un personnage d'agitateur politique qui s'appelle Yamine et qui court dans la ville. Et en fait, il y a plein d'archétypes comme ça de personnages. Il y a la veuve, la danseuse qui s'appelle Dalila.
Pour le dire un peu rapidement, il s'agit d'une description d'une Algérie, je sais pas, pré-insurrectionnelle, comme dirait Volodine.
Oui, voilà. Donc il y a une menace.
Vous diriez pas ça?
Enfin,
d'accord. D'accord.
Il y a une menace qui c'est dit de manière très didactique. Quoi. Il y a une menace qui plombe le flux de l'écriture. Et sauf que moi j'étais gênée par un entre-deux bizarre dans la fiction. J'aurais préféré que ce soit carrément une fable ou carrément un conte. Avec vraiment des archétypes sans prénom et qui soient vraiment sur un mode onirique, parce que là on est entre la fable et le roman dit engagé,
ouais.
Et c'est ça qui fonctionne pas du tout, je trouve.
Estelle Gap.
Oui, je suis très étonnée parce que effectivement on est dans le conte, on est dans la fable. Moi j'ai été emportée par cette écriture lumineuse. Je trouve qu'il y a vraiment une lumière dès le début, il y a une vraie poésie. Et ce qui m'a plu en avançant dans le livre, c'est que justement il y a un vrai contraste entre une description un petit peu orientaliste, très poétique, il y a ces jardins, ces cascades de fleurs.
Et joue sur les, oui, c'est quoi,
sur
les
images. Oui, voilà, il y a quelque chose de merveilleux qui contraste beaucoup avec une violence sociale. Il y a une misère très froide et justement le personnage de Yamine, effectivement, c'est un jeune révolutionnaire qui court dans les rues de la Médina, qui sur son chemin croise ses acolytes, l'illusionniste, le nabo, Babor le poète, enfin des personnages un peu métaphoriques. Et ces jeunes garçons, en fait, se perdent dans le labyrinthe de la Médina. Et je crois que c'est ça, c'est parce qu'on est dans une impasse entre une Algérie orientaliste, tous ces clichés que vous décrivez, qui font partie d'un espèce d'Orient merveilleux qui n'existe plus, et puis cette réalité ultra-violente, on est dans une ville envahie par les militaires, et à chaque fois, Yamine est saisie par la misère, par l'injustice. Il y a quand même des thèmes qui sont abordés. Il y a l'immigration, il y a l'humanitaire. On est vraiment confronté à une vraie misère sociale. Et justement, je trouve qu'elle éclate d'autant plus que on est sans cesse porté entre la course-poursuite de ces jeunes dans la ville qui amène un rythme très soutenu. Et puis, ces ruptures sans cesse avec des descriptions très poétiques, très imagées. Et je trouve que, voilà, on est parti dans cette histoire. Effectivement, on ne sait pas où on va, comme ces jeunes garçons qui se perdent dans le labyrinthe de la Médina. On est certainement dans une impasse. Et vous disiez, on est dans une ville imaginaire. Bah, curieusement, je ne crois pas. Moi, je l'ai tout de suite située à Alger. Et je me suis dit, alors, est-ce que... ma grande question, c'était ça, et peut-être un peu la déception sur la fin du roman, c'est est-ce qu'on est dans l'Algérie d'aujourd'hui ou est-ce qu'on est dans l'Algérie de 1961. Et moi, j'y ai vu dans cette menace, justement, effectivement, une évocation du putsch des généraux en avril 61. Mmh. Et je me suis dit, eh bien voilà, l'auteur, il est né à Alger. Peut-être que c'est son propre souvenir de ce printemps algérois de 1961, vu avec toute la distance de ces 40 années. Donc, d'où cette impression de flou, cette impression qu'on n'arrive pas à accrocher l'histoire. Est-ce qu'on est dans le présent? Est-ce qu'on est dans le passé? Mais je crois que c'est aussi une façon de rendre hommage à cette Algérie qui est toujours blessée. Une des heures de braise, je crois que ça fait 40 ans que l'Algérie reste blessée par son passé, par son présent. Et elle ne se sort pas de cette désespérance.
Voilà, merci. C'est donc ce premier roman qui s'appelle Les Heures de Braise, qui est signé Reda Bekeshi et qui est publié chez Liana Levy. Songe de Mevlido de Antoine Volodine, qui est publié aux éditions du Seuil, de Sans Laurent Houtan de Éric Chevillard, qui est publié aux éditions de Minuit, et Des Heures de Braise de Reda Bekeshi, qui est publié aux éditions Liana Levy.